Chapitre 5. J'ouvre les yeux. Un fabuleux déluge de lumière m'inonde. C'est un pur enchantement. Des myriades de rayons dorés dansent dans la pièce où je m'éveille. Puisque je m'y trouve sans personne d'autre, il est évident que ces flèches de lumière divine accomplissent ce miracle pour moi seule. Quel cadeau, c'est merveilleux! Je me sens faible. Pourtant, grâce à ma grande volonté, je réussis à prendre appui sur mes coudes pour me redresser. Je me tiens à présent assise sur un lit très haut, le dos calé par mon oreiller. C'est inconfortable, mais je suis trop absorbée par ce que je découvre pour me décider à échanger quoi que ce soit. Je préfère m'en accommoder car tous mes sens sont en éveil. Mes yeux éblouis, le calme, un parfum inconnu qui flotte dans l'air. J'aime le contact des tissus que j'effleure. Je porte une robe dont l'étoffe est fine sous mes doigts, toute simple, mais d'une jolie teinte pâle. Je crois que cette couleur est connue sous le nom de vert. Elle est parfaitement assortie au drap clair dont les bords sont délicatement ornés de symboles que je n'arrive pas à déchiffrer. Peut-être s'agit-il de mon nom ? Mais quel est-il d'ailleurs ? Sur le côté en surplomb, une poche souple remplie d'un liquide translucide, aussi cristallin que de l'eau de roche, est accrochée à un grand mât d'argent qui brille de mille feux. Je suis impressionnée par l'élégante forme de cet objet extraordinaire. Ce trésor doit m'appartenir également, et c'est sa grande valeur qui justifie sans doute que j'y sois reliée par un tube qui aboutit dans mon bras où il disparaît comme par magie. Quel prodige ! Je gazouille. Suis-je un bébé ? Ce tube est-il mon cordon ombilical ? J'éclate de rire. Impossible que je sois un nouveau-né car les tout-petits ne chantent pas avec une élégante voix de rossignol comme je suis en train de le faire. Je suis tellement heureuse des bienfaits dont la vie me comble dès mon réveil. Mes mains caressent mon visage, je n'en reconnais pas les contours mais peu importe. Car ce que je découvre me plaît. J'adore mon petit bout de nez et mes lèvres sont si douces. Sur ma tête, je devine une sorte de turban. Il est solidement enroulé et descend jusqu'au milieu de mon front. Comme je dois être belle. Tout à coup, un éclair traverse mon esprit. Je sais. Je suis une princesse orientale. Qui s'éveille dans l'aube bienveillante de l'astre solaire. Cette salle doit être l'une des chambres de mon palais. Mon rang explique à la fois ma robe si élégante et ce trésor sur roulette dressé auprès de moi, supportant ce liquide précieux. Ma chambre est assez rudimentaire, mais l'harmonie des couleurs y est sublime. Je remarque d'étranges machineries dont j'ignore l'usage. Certaines clignotent frénétiquement, se parant de lucioles rouges et vertes qui se répondent. Une sensation me revient, me projetant par la pensée au pied d'un arbre décoré. Mais il y a tant à voir que je ne m'attarde pas sur cette réminiscence imprécise. La fenêtre est striée de fins barreaux horizontaux. Je dois vraiment être une personnalité importante pour que l'on me protège ainsi. Ce local n'est pas immense, quasiment un réduit, mais c'est probablement parce que je suis encore une jeune princesse. Comme pour le bocal des poissons rouges, le contenant grandira avec moi. Et au fil du temps, ses murs se pareront alors de merveilles qui reflèteront mon aura. Cette perspective m'enthousiasme au point que je tape dans mes mains de joie. Tellement impatiente d'être grande! Je chante de plus belle. Je ne comprends même pas ce que j'interprète, mais mes vocalises s'envolent jusqu'aux confins du palais. La porte s'ouvre et quelqu'un apparaît. Une femme, vêtue d'une blouse blanche sans éclat et portant des chaussures de mendiant. Certainement l'une de mes nombreuses domestiques. Elle avance vers moi directement sans même s'incliner et m'adresse la parole. « Vous voilà enfin réveillée. » J'en connais qui vont être soulagés. Ne vous agitez pas comme ça, c'est une phase délicate. Vous devez vous ménager. Laissez-moi vous aider. Bien sûr qu'elle va m'aider. Elle est née pour cela. Elle s'approche et m'observe de très près. Ni révérence, ni formule de politesse. Est-ce ainsi que l'on s'adresse à sa souveraine? Elle se permet même de tripoter le lien tubulaire qui me relie à mon trésor. Vilaine gueuse! Elle profite de ma jeunesse et de mon inexpérience pour tenter de me chaparder mon bien. Mais comme l'a dit un labrador plein de sagesse, la valeur n'attend pas le nombre des tannées. Cette pauvre créature va vite comprendre que je ne suis pas du genre à me laisser faire. Pour lui signifier ma grande désapprobation, je lui flanque une bonne tape sur la main. Elle se fige. « Qu'est-ce qui vous prend ?» me demande-t-elle avec une incroyable audace. « Je veux bien vous pardonner votre entrée fort peu protocolaire, mais de grâce, ne me volez pas. Vous volez ? Vous pouvez encore échapper à la douloureuse humiliation d'une punition en place publique. Mais pour cela, je vous prie de recommencer votre entrée et de me témoigner le respect dû à mon rang. » Elle ouvre des yeux ronds. Elle jette un œil à la poche translucide remplie de liquide magique. « Qu'y a-t-il dans votre perf ? Vous êtes shooté ? Ils ont dû mettre la dose éléphant. » Elle parle un étrange dialecte. Sa diction est rustre et sa coiffure multicolore atteste de sa basse extraction. Il est de mon devoir d'éclairer sa vie en lui donnant une bonne leçon. Soigne tes manières, pauvre lépreuse, sinon tu auras raison de ma patience. Et en dépit de ma bonté, tu retourneras à la rue, où je te ferai jeter, te condamnant à une vie de misère et d'infamie au milieu de tes semblables qui passent leur journée à se gratter. Elle me dévisage, interloquée. Hors de question de lui faire l'honneur de croiser son regard. Je ne lui accorderai pas cette aumône. Je me tiens bien droite, fixant le mur comme s'il s'agissait d'un horizon. Je la sens, toute proche. Son souffle, infesté de microbes ramassés dans son affreuse maison en torchis, court sur mes joues, au risque de me contaminer. Je bloque ma respiration pour ne pas finir tel un zombie avec des chaussures moches. Il ne faudrait pas que cela dure trop longtemps, car je suffoque déjà. Un large sourire éclaire son misérable visage de pécheresse. Non seulement elle ne semble pas impressionnée, mais la petite effrontée se permet même de rire. Pire, mon infaillible instinct me souffle qu'elle se moque de moi. Cette fois, c'est certain, je la ferai bastonner et jeter au hamster. Rira bien celle qui rira le dernier lundi du mois. Crime suprême, l'air de rien, elle confisque en plus certains de mes plus beaux rayons de soleil qui illuminent son profil. Dans cette lumière qu'elle chaparde, elle serait presque belle. Les dieux sont décidément trop bons. Il faudra que dès le prochain bal des facteurs, je leur parle personnellement de l'abus que les mécréants font ici-bas de leur prodigalité. Voilà l'impudente qui s'intéresse encore à ma réserve personnelle d'eau de roche. « À la garde ! À la garde ! On pille mon sang ! On barbote ma vie !» L'infâme gourgandine rit de plus belle. J'ai déjà vu des trucs bizarres, surtout avec des gens ayant reçu un coup sur la tête. Mais vous battez tous les records. Pardon, je sais qu'il n'est pas convenable de rire des patients, mais quand même. Qu'ai-je donc de si drôle ? Rien du tout. Je suis même sincèrement rassurée de vous voir réveillée. Vous me faisiez de la peine dans le coma, comme ça, avec tous ces gens qui venaient vous rendre visite et qui s'inquiétaient de votre sort. Vos proches tiennent vraiment à vous, hein. Certains sont restés des journées entières. Il est évident qu'elle fait allusion à ma cour. Même pendant mon absence, mes admirateurs se pressaient sans doute pour déposer des offrandes dans mes appartements. J'ai hâte d'admirer les pierres précieuses et les soirées qu'ils m'auront rapportées des confins du monde. Vous dites que j'étais dans le coma. Est-ce une contrée lointaine où je m'étais aventurée ? On peut l'envisager comme ça. Elle continue de m'observer sans vergogne, me braquant même un étrange rayon lumineux dans les yeux. Je la repousse. Cesse tes sortilèges, sorcière. Je suis de retour du coma, et si les montagnes et périls de ces terres inhospitalières n'ont pas eu raison de moi. Ta maudite lumière ne me contrôlera pas. » Poursuivant son examen, comme si je n'avais rien dit, la femme en blanc murmure « Il va sans doute falloir gérer l'aspect psychologique, mais le réveil est prometteur. Vos fonctions cognitives semblent intactes. » Est-ce un prince qui m'a tiré de mon sommeil ? Elle éclate deux rechefs de rire. Ce nouvel affront lui coûtera 30 coups de bâton de plus. Ma grandeur d'âme a ses limites. Mon peuple sait à quel point j'aime les enfants sages, les pangolins, les fraises et les beaux chapeaux. J'ai d'ailleurs l'intention de créer des œuvres de bienfaisance pour les protéger, surtout les chapeaux qui sont si fragiles hors de leur boîte. Mais ma légendaire mansuétude ne pourra pas pardonner un comportement aussi irrespectueux. Nous n'avons pas gardé les dés à coudre ensemble, parbleu. Elle m'étudie toujours. Elle me chatouille les doigts, déplace un petit objet en forme d'insecte, assez rigolo d'ailleurs, pour attirer mon regard. À présent, elle écrit sans même demander la permission. Elle trace d'étranges signes sur une feuille. Sans doute des poèmes à ma gloire. Elle tourne autour de moi comme un animal qui prend conscience de sa vile bestialité face à une merveille de la nature. Êtes-vous subjugué par ma grâce ? Il y a de ça ? Je peux vous comprendre. Votre réveil vaut vraiment le coup. Un formidable cas d'école. Je suis contente d'avoir fait 5 ans d'études pour assister à cet instant-là. 5 ans d'études, fichtre ! N'entre pas à mon service qui veut, cela se mérite. C'est d'ailleurs bien naturel. Pourtant, après tant d'instructions, je fais tout de même le navrant constat de la piètre qualité de ses chaussures et de sa coiffure. Sans parler de ce pendentif en forme de cœur coupé en deux, parce qu'il n'a sans doute pas eu les moyens de s'en offrir un entier. Quelle durée d'apprentissage faut-il pour maîtriser l'art du beau ? L'usage de la barrette et du talon aiguille. 1 siècle d'université avec les plus grands maîtres. Plusieurs vies. Elle tente de réprimer une émotion que j'analyse mal. J'envisage qu'il puisse s'agir d'un début de repentir, ce qui serait assez logique. Mais il n'en est rien. La voilà emportée dans un fou rire. Immonde traîtresse! C'est décidé, je vais faire d'elle un exemple aux yeux de mon empire. Que l'on m'apporte un papyrus et des crayons de couleur. Et je vais moi-même dessiner la sentence qui la punira lors de prochaines festivités. Je vois déjà le tableau. Elle sera enduite de chantilly, coiffée d'un bonnet qui démange, enfermée dans un tonneau qui dévalera une pente au bas de laquelle l'attendront des poules carnivores. Tout le monde constatera combien je suis magnanime. Mon ultime cadeau sera de la faire entrer dans la légende. Elle s'en fout. Mes menaces ne produisent aucun effet. Elle s'étouffe tellement elle rigole. Je comprends à peine ses paroles. 6 jours dans le gaz et vous vous réveillez comme un bébé. D'ailleurs, vous chantez à tue-tête. On ne sait même pas dans quelle langue. Et puis vous me traitez de lépreuse. Elle pleure carrément en hoquetant de rire. Elle recule vers la sortie, toujours sans la moindre révérence, mais sans oser me tourner le dos non plus. « Ne vous inquiétez pas, » articule-t-elle néanmoins. « Je reviens immédiatement. Il faut que j'aille chercher Maria. C'est la doyenne du service. 40 ans de métier et je parie mon salaire qu'elle n'a jamais vu ça. Allez aussi prévenir mes cuisiniers que j'ai faim. Faites préparer un grand bal pour fêter mon retour du coma. » N'oubliez pas d'inviter des chats et des danseurs mondains. À vos ordres, votre Altesse. Cette réponse me convient nettement mieux. Il était temps que je me réveille. Le royaume se barrait en sucette.